Ah oui, superbe succès. Voilà, on se quitte, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel opus. Belle journée à toutes et à tous.
L'émission des années 60 sur RVE. RVE, bonne matinée. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, mouvement paradoxal. Si l'on en croit les chiffres officiels, il a fallu beaucoup plus de forces de l'ordre hier dans les rues des grandes villes de France pour encadrer des manifestants de moins en moins nombreux. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dénombré 125 000 gilets jaunes, soit moins que la semaine dernière, avec des effectifs policiers qui étaient portés à 89 000. Autre chiffre exceptionnel, 1385 personnes ont été interpellées et 975 ont été placées en garde à vue. Le dialogue a commencé, estimé le Premier ministre Édouard Philippe, qui veut désormais retisser l'unité nationale. Mais les violences n'ont pas été évitées et à Paris comme en province, on retrouve ce matin les stigmates de la casse. Vitrines brisées sous les lumières de Noël, voitures renversées et brûlées, mobilier urbain saccagé. Les images ont encore marqué les esprits, notamment celui d'Anne Hidalgo, la maire de la capitale, qui a déploré des scènes de chaos et des dégâts incommensurables. Pour le patron de LR, Laurent Wauquiez, de nombreux Français, notamment commerçants, ont connu un nouveau samedi noir. Outre Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes ou encore Saint-Étienne ont été très touchés. Il y avait aussi des gilets verts sur les pavés avec plusieurs marches pour le climat. La principale à Paris ayant mobilisé dans le calme entre 17 000 et 25 000 participants qui ont défilé entre les places de la Nation et de la République. Alors que se poursuit la COP 24 en Pologne, les manifestants ont insisté sur la nécessité de concilier environnement et pouvoir d'achat. Vu de l'étranger, plusieurs chefs d'État ont ironisé sur la situation en France, comme le russe Vladimir Poutine ou encore le turc Recep Tayyip Erdogan, qui a critiqué la violence disproportionnée des autorités françaises. Ce mouvement a aussi gagné la Belgique. Environ 400 personnes ont été arrêtées à Bruxelles et un policier a été blessé pendant un rassemblement de gilets jaunes belges qui a réuni un millier de personnes. Ces événements ont aussi provoqué une chute sensible des dons pour le Téléthon. Le compteur s'est arrêté cette nuit à 69 290 000 euros, alors que ce marathon en faveur de la recherche contre les maladies rares avait atteint plus de 75 millions l'an dernier. Bonne journée.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après le Tribune Foot de la semaine dernière. On va vous apporter beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur ce matin dans ce contexte un peu difficile socialement avec nos invités. Il y a beaucoup d'actu en matière de course à pied et d'aventure dans les prochaines semaines. On va commencer avec ceux qu'on est content de retrouver, c'est la section athlétisme de Rambouillet Sport qui va organiser samedi soir prochain la Corrida de Rambouillet, la deuxième édition. Je salue donc Jean-Christophe Mayuris. Salut Jean-Christophe.
Oui, bonjour Philippe, oui. Bonjour tout le monde.
Heureux de vous retrouver à ce micro, hein. C'est bien, ça y est, c'est reparti la Corrida.
Oui, ça y est, c'est reparti après une petite interruption qui a été forcée par les différents événements.
Ans d'interruption.
Hein. Oui, 2 ans d'interruption. Nous sommes repartis sur une nouvelle course qui va changer un petit peu de structure puisque la première était exclusivement basée sur une course à l'intérieur de la ville de Rambouillet. Maintenant, on prend un petit côté trail. On se déplace un peu dans la forêt. On va voir un petit peu du côté du château. Il y aura quelques surprises pour les coureurs, de l'illumination, par exemple du château et puis des lucioles. Hein. C'est un petit peu le côté festif qu'on essaye de trouver dans cette course.
Très bien. Ben on va en parler. Vous êtes accompagné du vice-président Aboudou Sania. Salut.
Oui, bonjour Philippe.
Ça va?
Ça va très bien.
Pleine forme, prêt pour une belle épreuve.
Oui, prêt pour ce grand événement. C'est vrai qu'on l'a attendu depuis longtemps. On a du temps à la préparer. Et là, c'est vrai qu'on est pressé de voir notre bébé aboutir, quoi, accoucher. Mmh.
Et puis le troisième invité ce matin, c'est quelqu'un qui est un habitué, hein. Je l'avais reçu au tout début de l'année 2018 pour nous parler donc du Red 28 2018. Et puis à nouveau, il est revenu nous parler en cette fin d'année 2018 du prochain Red 28 2019. C'est Patrick Pilorget. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Ça va? Troisième week-end du mois de janvier, le Red 28 retrouve sa date initiale.
Oui, ça s'appelle le week-end du Red 28. Oui. On est très content de fêter cette année. Les 25 ans du Red 28.
Et vous aussi, tout plein de nouvelles choses. Hein.
Oui, beaucoup de nouvelles choses.
Comme de nouveaux départements, notamment. Très bien, on va en parler l'actu, c'est maintenant. Un petit mot, Patrick, sur le Téléthon. Je sais, vous êtes toujours très très investi sur le Téléthon. Un peu plus de 69 millions de dons de promesses. Et c'est un peu en baisse comme les années précédentes. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe actuellement socialement en France a eu des impacts et des effets?
Oui, ça peut jouer, mais il faut que dans notre société maintenant on s'habitue à ne plus avoir les progressions d'autrefois des 5-10%, oui, etc.
On est monté très haut à un moment, hein, très haut. Plus de 100 millions de dons de promesses, hein, il y a très longtemps.
Oui, il y a eu aussi une campagne médisante contre le Téléthon il y a quelques années qui a fait une dépression dans les dons. Mais je pense que les Français aussi sont confrontés au même problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements. Mmh. On est beaucoup sollicités, aussi bien dans le sport que dans les activités caritatives. Et il faut se disperser aussi. Donc c'est une espèce de caractéristique de notre époque maintenant. On n'a plus les progressions d'autrefois et on n'a plus non plus l'inflation d'autrefois.
Oui, c'est vrai que le sport a souvent été un des vecteurs, hein, du Téléthon. On en a parlé encore il y a quelques semaines.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a des belles manifestations qui sont organisées autour du Téléthon. Et moi, je suis très attaché à cela. Aujourd'hui, dans les Téléthons sur lesquels je participe, c'est-à-dire aux Ulysses et à Bure, etc., on est moins porté sur les événements de course à pied parce que, par exemple, nous organisions tous les ans la Bélie Regardinoise, qui est une course à pied à Saint-Jean-de-Bourgard, qui est une petite commune. On fait, sur un parcours de 4 km et des poussières, une épreuve de 6 heures. Donc ceux qui font 10 tours font un marathon, mais cette année on a renoncé à faire cette course, puis il y avait le jour où on l'a fait, le 2, on l'avait prévu le 2 décembre, il y avait énormément de courses dans la région, des très belles courses, notamment l'Aurigol.
Oui, alors on va en parler justement, parce bien que sûr. Jacques Poligny l'a organisé dans le cadre du Téléthon, et je vais vous donner quand même les différents vainqueurs, hein, 247 classés pour le Speed Trail, l'épreuve longue de 25 km, c'est Nicolas Duhail qu'on connaît bien qui l'a emporté en 1h52 minutes et 22 secondes devant Mathieu Deschamps, 1h57 minutes 39 secondes, et le troisième c'est Mickaël Avis, 2h5 minutes 32 secondes, c'est Alicia Poirel qui termine première féminine, 2h15 minutes 51 secondes. Pour le Maratrail, hein, 253 concurrents et concurrentes classés, c'est Loïc Fouquet qui l'emporte en 4h16 minutes 40 secondes devant Jérôme Depierre, 4h19 minutes 12 secondes, et troisième Jean-Baptiste Joliot, 4h19 minutes 59 secondes. La première féminine, c'est donc Caroline Jégel-Cochet en 5h31 minutes et 8 secondes, et puis naturellement donc 258 concurrents et concurrentes classés pour le Grand Trail, 75 km. Hein. Et c'est De Bilco Victor qui s'est imposé, 7h40 minutes 11 secondes, devant Vincent Gutt, 8h10 minutes 38 secondes. Et le troisième, Sébastien Poulard, 8h44 minutes 52 secondes. Lucie Alouzi termine première féminine en 9h49 secondes. Ce sont des temps quand même qui laissent pas indifférent, hein, Jean-Christophe.
Ah oui, c'est des temps qui parlent. Hein.
Grosse épreuve.
On voit bien que ça amène du monde et que c'est des personnes entraînées qui sont devant, qui ont vraiment des habitudes. Il y a des spécialistes de ce genre d'épreuves, et on les retrouve facilement dans ces trails très réputés.
Voilà. Oui. En tout cas, c'est bien de le continuer pour le Téléthon.
Bien sûr, on est toujours sur le Téléthon, oui. Et puisqu'on est sur le sujet, à Bure-sur-Yvette, dans le cadre du marché de Noël, en ce moment, hier et aujourd'hui, en particulier notre association, l'équipe du Room, propose des bénévoles qui tiennent un stand pour le Téléthon, avec des objets, un vélo où évidemment on pédale, on espère battre le record de l'année dernière, il y avait eu 300 km, et c'est la mairie de Bure qui abonde avec des euros les kilomètres faits par les personnes qui viennent sur le stand du Téléthon.
Très bien, puis on peut continuer à faire le 36-37. Nous, on a fait le tour ce week-end du Téléthon, on a ramené tout plein d'interviews qui passeront dans une émission spéciale demain, et puis on était en direct hier depuis Bullion, qui était dans une tendance complètement contraire, qui elle était plutôt en hausse par rapport donc à la tendance nationale. Donc c'est très bien, on aura les chiffres très détaillés demain ou mardi très probablement. mais vous pouvez encore faire le 36-37. Alors, vous, c'est plus pour le Téléthon cette année, hein,
Jean-Christophe. Oui, cette année, on a changé. On fait tourner un petit peu les associations vers lesquelles on redonne. Au niveau de la corrida, on fait un don d'un euro. La participation étant de 12, on fait un don d'un euro vers les Petits Princes. Alors, oui. Les Petits Princes, c'est une association qui a été créée en 1987. Hein. Qui permet de réaliser les rêves des enfants et des adolescents gravement malades. Donc ils ont deux missions, alors je leur fais un peu de publicité parce qu'on n'entend pas souvent parler d'eux. Ils ont deux missions, la première, pour un enfant, plusieurs rêves peuvent être réalisés, et puis la deuxième, c'est un soutien à l'ensemble des familles, parce qu'on sait très bien que dans ces moments difficiles, elles en ont besoin. Voilà. Mm-hmm. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris cette association.
Alors, comment se prépare cette nouvelle corrida? Alors, c'est bien parce que Rambouillet, c'est une véritable capitale de la course à pied. Hein. Il y a le semi du mois de mars qu'on ne présente plus. Hein. C'est l'épreuve de par son la plus ancienne épreuve. Hein. Je vais y arriver. Donc l'épreuve la plus importante et la plus ancienne sur Rambouillet. Ensuite, il y a la course du château. Et vous avez trouvé votre place à travers cette corrida.
Oui, on a vu qu'il y avait un créneau, entre guillemets.
Intériorité,
l'hiver.
Voilà, ça y est. Ça va bien. Voilà, oui, ça arrive.
On a vu qu'il y avait un petit créneau l'hiver où il n'y avait pas de course sur la commune de Rambouillet.
Oui.
Donc on a essayé de créer un événement autour de ce créneau-là. Et ça nécessite, donc on a fait la corrida, la première édition, qui s'est très très bien
2015,
passée.
2015, hein. Je me souviens, oui.
Oui, 2015, c'était très sympathique, très festif au niveau de la ville. Donc on a essayé de trouver ce créneau. Alors par contre, comme on le dit toujours, ça nécessite beaucoup d'implication, parce qu'on est tous des bénévoles autour de la table, hein, et lorsqu'on prépare quelque chose, on le fait en dehors du temps de travail. Donc ça nécessite beaucoup de temps, et en général, pour une course comme la nôtre, mais je suis sûr qu'on dira pareil pour les autres, on est presque entre 9 mois, pas loin de 9 mois pour préparer correctement un événement, le temps de trouver les bénévoles, de valider les parcours, de toutes les réunions qu'on peut avoir.
Voilà. Oui, alors c'est fabuleux parce que Rambouillet est super bien décoré et illuminé, il y a la patinoire qui est pas loin, vous allez passer au contact de tout cela, quoi.
Oui, alors on va passer dans la grande rue, on va passer le long de la patinoire, on va pouvoir voir un petit peu les illuminations de la ville, ce qui va être assez sympathique. On va passer à côté du village qui est fait pour cet hiver, hein, et de la patinoire. Et puis on rentrera directement dans la forêt, dans le parc.
Parc du château en pleine nuit.
Le parc du château en pleine nuit. Alors c'est une première parce que d'habitude il est fermé. Il y a des parties qui sont complètement fermées. C'est pour ça qu'on a rendu obligatoire les frontales parce que pour des questions de sécurité. Néanmoins, il y aura quand même un petit éclairage de balisage, hein, qui permettra aux coureurs de se retrouver, et on va essayer de leur réserver une ou deux petites surprises par rapport à de la musique et puis l'illumination du château.
Voilà. Juste, si tu me permets, la petite particularité qu'on a de courir comme ça dans un parc, c'est que c'est vrai que c'est relativement roulant. On n'a pas, par exemple, de souches, etc., qui pourront éventuellement gêner les coureurs.
Ça monte pas un peu dans le parc, je crois que ça va à la côte du château.
C'est léger.
La nuit, ça passe mieux.
C'est
quoi.
Pas vraiment une côte.
Ça passera mieux la nuit,
en effet.
Ouais, un gros caillou.
Ouais. Le départ à quelle heure?
Le départ 20h30. Oui. Hein, le départ 20h30.
Devant la mairie, non?
Devant la mairie, d'accord, comme la dernière fois. Alors la grande rue sera complètement fermée pendant toute l'épreuve. Il n'y aura pas de voiture et pas de véhicule. Donc les coureurs, lorsqu'ils voudront arriver, on leur conseille de se garer plutôt vers le Rondeau, pour ceux qui connaissent.
Oui. Hein,
plutôt vers ce parking-là. La remise des dossards commence à 18h30 place de la mairie, mais on peut le faire aussi par notre partenaire l'après-midi à Intersport, hein, jusqu'à 18h30 il y a Intersport où on distribue des dossards. Nous ne prenons plus d'inscription.
Oui, tout est complet. Hein.
Tout est complet depuis un mois. Hein, nous sommes désolés pour tous ceux qui sont des retardataires, entre guillemets, même si on ne peut pas parler vraiment de retardataires au bout d'un mois, mais pour des questions de confort et de sécurité, hein, pour les coureurs, on a préféré limiter à 700 coureurs la première édition. Voilà, pour être sûr, puisque c'est un nouveau parcours, pour être sûr que le parcours puisse accepter d'autres personnes de façon à ne pas gâcher la sécurité.
Bon, moi je le sais, mais c'est combien de kilomètres la corrida?
Ah, c'est beaucoup, c'est 2 fois 5, c'est 10 kilomètres.
Donc ça va être à fond, quoi.
Ça va être
tout
très
suite,
rapide.
Tout de suite.
Ça va être très rapide, et deux passages dans la ville. Alors, on imagine d'ici quelques, peut-être l'année prochaine, décliner peut-être d'autres types de courses, peut-être par soit par des relais, soit par faire un 5 km, on verra comment, ou peut-être même une course enfant. On est en train de réfléchir à placer une deuxième course à l'intérieur de la première.
Parce que c'est pour un, c'est pour une race de coureurs particuliers quand même. Hein. C'est pour des véritables sprinteurs, on peut dire ça.
Alors
des sprinteurs du fond.
Oui, oui, c'est comme on dit toujours, le 10 km, c'est assez simple. On commence vite, on accélère au milieu et on finit à fond. Donc c'est un sprint long.
Il y a des favoris qu'on connaît bien. Je crois que c'était des coureurs de l'Eure-et-Loire qui étaient venus gagner il y a 3 ans.
Alors, il y a quelques favoris qui sont venus l'année dernière. Oui, c'était des coureurs de l'Eure-et-Loire. J'ai pas regardé la liste des participants qui sont arrivés, mais je pense qu'on va avoir un plateau assez élevé quand même.
Alors, Patrick, vous, au même moment, vous avez aussi une épreuve sur Bure.
Le même jour.
C'est bien.
Le soir également. On va courir à Bure-sur-Yvette, sur la station de trail de Bure-Vallée-de-Chevreuse. Sur une piste qui est habituelle pour les coureurs de la région. Et on a créé ce trail, on appelle ça le trail du Père Noël, mais en fait ça s'appelle sur la piste du Père Noël.
Ah bien.
Mais c'est un trail du Père Noël, le départ sera à 19h.
Donc tout petit peu avant, en mouillère.
Oui.
Combien de kilomètres, pareil, 10 kilomètres?
Une douzaine de kilomètres, mais c'est une douzaine de kilomètres dans la forêt, dans les bois. C'est un trail, un vrai trail, qui va partir du stade Chabras, c'est-à-dire presque du centre-ville. Donc c'est un joli départ. Et puis, les coureurs vont se diriger sur cette piste de la station de trail, qui est bien connue. Et puis, on est content, puisqu'on est monté à 500 coureurs. On va même dépasser 500.
Et vous, c'est clos ou on peut
C'est clos depuis plus d'un mois, bien entendu, pareil.
C'est fou ce succès des...
Oui, alors le trail, c'est très bien parce qu'il y a une multiplication des courses. Alors ça complique beaucoup les organisations parce que l'administration a du mal à faire face à toutes ces demandes. Mais c'est un vrai plaisir de voir que les gens qui font de la course à pied, soit les coureurs chevronnés, quasiment des professionnels, et les amateurs, vont pouvoir s'amuser sur ces parcours-là. C'est ce qui se passe chez nous. Je pense que sur la corrida, c'est pareil. Il y a des gens qui vont s'arracher pour faire le 10 km dans des temps records, mais il y a également des amateurs qui vont venir pour courir tranquillement, qui mettront une heure et demie pour faire le parcours. Chez nous, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent pour s'amuser, qui ne sont pas des grands champions. Alors, les grands champions sont devant, vont gagner. Et puis, il y a des gens qui viennent pour s'amuser. Et cette grande palette d'amateurs est très intéressante pour les organisateurs parce qu'on fait plaisir à beaucoup de gens. On fait plaisir également aux bénévoles, puisque mon association, ainsi que donc l'équipe Curum, qui organise le Raid 28, et puis l'association de marche nordique de Bure-sur-Yvette apporte beaucoup de bénévoles. Le personnel aussi communal vient aider pour organiser cette course. Donc c'est un bel événement. On est content de pouvoir proposer cela dans la région. Ça ne se concurrence pas avec les courses de Rambouillet, parce que les gens qui viennent chez nous sont des gens qui viennent à proximité. Et on espère faire une très très belle fête. Il y aura également des jeux ailettes, parce qu'on n'a pas les moyens de faire une course qui soit dédiée à une organisation humanitaire. Par contre, on accueille des jeux ailettes de Dune d'Espoir, comme tous les ans, qui vont s'amuser, qui feront un départ 10 minutes avant. C'est la fête. Il y aura évidemment le Père Noël qui sera sur le parcours.
Alors le malheureux Père Noël,
il sera un peu fatigué parce que là il est Père Noël pendant 48 heures sur le marché. Et la semaine prochaine, on compte sur lui pour précéder la course. Il se fera doubler en cours de route, évidemment.
Oui, et puis après il pourra dormir pendant 10 mois, donc tranquille. Voilà. Rambouillet Sport va être complètement investi. Les autres associations vont vous aider dans cette organisation?
Oui, on a beaucoup de bénévoles pour organiser ce genre de course. On a des comptes entre 150 et 200. Les autres associations de Rambouillet Sport vont nous donner des coups de main. Et même au-delà, on a souvent, comme je dis toujours, on a un petit partenariat de morale entre Rambouillet Olympique et nous. On s'aide sur le SMI, on les aide sur le SMI,
nous aide sur le 10.
Ça fait partie de la vie communale.
De toute façon, vous connaissez tous, on le voit entre organisateurs, et des fois même vous appelez pour éviter d'être souvent en concurrence. On l'a vu, Stéphane Schubert, Jacques Poligny, Patrick Baudot qu'on aura la semaine prochaine. Enfin, vous connaissez entre vous quand même.
On fait attention à ce que le calendrier ne se bouscule pas, que tout le monde puisse courir. Je pense que ce qui est important, c'est que sur les courses qu'on organise, que ce soit des 10 km, des 6000, etc. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est que chacun puisse trouver son compte. On a des coureurs, entre guillemets, qui s'entraînent 5 à 7, 8, 9 fois par jour, qui seront devant et qui courront très vite. Et puis il y a des gens qui vont faire leur première course, qui vont découvrir le monde de la course à pied à travers ces petites courses qui sont des courses de faible distance. Et c'est là que ça prend tout son sens, parce que ces gens-là, on voit un bonheur lorsqu'ils arrivent dans leurs yeux. C'est l'épreuve, quoi. C'est l'épreuve. Pour eux, c'est vraiment une grande épreuve et c'est un premier pas dans la course.
Voilà. Oui, bien sûr. Bon, Jean-Christophe, et puis Aboudou, vous n'allez pas courir, là. Vous êtes dans l'organisation, là.
Étant dit que c'est nous qui organisons, ce serait un peu déplacé de courir en général.
C'est un peu frustrant, non?
Non, parce que c'est quand même notre course. On a quand même d'autres occasions. On a tout le reste de l'année pour courir. Là, c'est quand même notre course. La moindre des choses, c'est quand même c'est de nous investir et de faire en sorte que l'événement se passe bien. D'autant plus qu'on a besoin de bras, ce serait un peu déplacé de courir et un peu délaisser les collègues. Donc, on préfère être sur le parcours et faire le nécessaire.
Bon, qu'est-ce qu'on gagne des lots?
Alors oui, bien sûr, un t-shirt, comme toute course. Hein, maintenant, c'est devenu classique. Une rose pour chaque femme.
Ah, c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien.
C'est très sympa. Alors, ce qui est sympathique aussi, c'est qu'on a une course, alors je ne sais pas si les courses dans le 28 sont pareilles, mais on a une course où on a vraiment la mixité. On a 340 femmes pour 360 hommes. C'est très sympa. Et puis, tout un tas d'autres lots. Mais pas d'argent. Voilà. On est des courses où il n'y a pas d'enveloppe à l'arrivée parce que on est sur des courses qui sont vraiment sur le côté coureur. Comment ça s'appelle bénévole. Voilà. On est vraiment sur du bénévolat et se faire plaisir, quoi.
Alors, si tu permets, il y aura des très beaux lots pour ceux qui viennent courir et il y aura une tombola.
Je tairai le principal lot, mais
ça vaudra vraiment.
Et le parcours, lui, va être comment? Bon, on a dit qu'il emprunte une grosse partie du château, mais est-ce que le parcours va être sélectif, compliqué? Dans le centre-ville, ça grimpe un peu?
Oh, je pense que la plus grosse difficulté, ça va être plutôt les pavés. Je pense que des fois, les gens n'ont pas vraiment l'habitude de courir sur des pavés.
Au niveau du château, il n'y a pas de problème.
Non. Puis le fait de courir la nuit, je pense que les sensations sont différentes.
Faut pas qu'il pleuve. Par contre, les pavés peuvent être glissants.
Je crois qu'on a déjà eu, je crois qu'il y a 2 ans, ils étaient assez
glissants. Il y avait une petite pluie, ça s'était bien passé. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en course de nuit, on va toujours un petit peu moins vite que de jour. Il y a 1 km/h de différence, quoi. Typiquement, le corps prend moins confiance. La personne a moins confiance et pousse un peu moins.
Bon, Patrick, vous, les lots proposés, c'est quoi?
Les lots proposés pour le Trail du Père Noël, on n'a pas des gros budgets. On va offrir un cadeau à tous les coureurs. Je me souviens même plus ce que c'est. C'est genre un tour de cou ou des choses comme ça. Puisqu'on n'a pas, c'est une course à petit budget. Là aussi, beaucoup de bénévoles. Il n'y a pas d'enveloppe d'argent. Je pense que tout le monde est content à l'arrivée parce qu'il y aura un petit buffet pour pouvoir se restaurer à l'arrivée. Et puis également, la ville de Bure offrira de la bière à tous les participants. On a un brasseur local qui servira de la bière.
Il n'y a pas de château, mais il y a la bière.
Voilà. Chacun fait comme il peut avec ses moyens. Et il faut savoir que l'équipe du Roux maintenant a un joli carnet d'adresses et peut faire venir beaucoup de gens pour nous aider. Je peux relever quelque chose que tu disais tout
Patrick.
À l'heure. On se connaît presque tous les organisateurs de la région. Donc je profite de cela pour dire que entre organisations, on se connaît bien effectivement, notamment sur notre secteur, et on mutualise. Quand on a besoin de nos équipements et nos bénévoles. C'est le cas par exemple avec Patrick Bonneau.
Il viendra en parler la semaine prochaine.
Voilà, bien entendu.
Du marathon des Yvelines.
Nous serons un grand nombre de bénévoles sur le challenge sur route du 6 janvier.
Oui.
Et puis également le CIVC Chevreuse, également le GAC de Gis-sur-Yvette. On se connaît tous. On participe aux courses des uns des autres. Et quand on peut, nos bénévoles vont prêter main forte aux autres organisations. Donc on fait une espèce de mutualisation de nos moyens. Et ça permet de renforcer tout ce qu'on fait. Et puis ça permet de passer beaucoup de moments plaisir avec nos amis organisateurs et nos coureurs.
Bien sûr, comme la course des Quatre Châteaux, par exemple. Hein. Vous connaissez bien Stéphane Chaubert, il était venu en parler là.
Bien sûr.
C'est pareil. Allez, la pub, la musique, et ensuite on poursuit sur la course à pied, puis notamment sur la 28, messieurs, qui arrive très vite.
Brive Chauffe-eau électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement L'Orée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry Pontin.
Jusqu'au 15 décembre 2018, la Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie reconnue au Grenelle de l'environnement, vous propose une offre spéciale Noël. 20% de remise sur une large sélection de produits. Et pour toute commande supérieure à 5000 euros, nous vous offrons un panier gourmand aux saveurs gourmandes de la Gascogne. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Les devis sont toujours gratuits. À Bassienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines.
Et maintenant, une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE.
RVE. RVE.
strict, naturellement, c'est avec modération la bière. Hein.
Bien entendu.
Ah, ah, faut pas l'oublier, sinon on va être bourré, ça va mal se passer. Voilà. Allez, il fallait le dire. Red 28, donc, qui retrouve sa date initiale, les 19 et 20 janvier. C'est la 32e édition, c'est ça, Patrick?
Ah non.
Non, ah non. Ça, non, c'est le semi-marathon de Rambouillet. Voilà. L'antériorité du SMI. Voilà. La combien?
26e.
D'accord. Alors, 26e, mais vous innovez, cette année, avec un nouveau département, la Seine-et-Marne.
Voilà, alors on réalise un projet qu'on avait en tête depuis pas mal d'années, c'était de partir d'une autre ville, de traverser d'autres forêts, puisque nos habitudes nous avaient conduit à être du côté de Chartres, évidemment, Red 28, l'Eure-et-Loir. Et cette année, ce projet prend forme et on va partir sur l'Ultra Red 28 depuis la Fontainebleau. Ce sera un beau départ pour les coureurs. Alors c'est pas, le départ n'est pas spécialement prestigieux puisque il y a pas beaucoup d'équipes, donc on va faire un départ dans un gymnase, mais tout de suite les coureurs seront dans la forêt. On va partir d'un lieu que beaucoup de coureurs connaissent qui est la Faisanderie. Mmh. Donc on fait 100 mètres
et on est dans le bataillon de Joinville est pas loin.
Oui, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Mmh. Et donc ça, c'est l'Ultra Red 28 qui va faire 110 km.
Voilà.
Et les coureurs vont parcourir leur chemin en suivi d'itinéraire. Donc c'est pas vraiment suivant les autres règles du Red 28 traditionnel. On va donner au départ une carte avec le tracé et des balises à trouver, mais qui sont marquées sur la carte. Voilà. Donc c'est pas le jeu de traçage que l'on a dans les autres courses du week-end du Red 28. Donc cet Ultra Red 28 s'adresse à des amateurs par équipe de 3 qui sont capables de parcourir des distances comme ça en 24 heures, puisqu'il faut que toutes nos courses soient arrivées à Bure avant 15 heures sur le campus de l'université Paris-Saclay, comme d'habitude, où on va nous accueillir dans un grand gymnase.
Mais alors ça vous a obligé d'aller en reconnaissance dans un département quand même que vous connaissez peut-être pas beaucoup?
Alors les reconnaissances, les repérages... Enfin,
à Fontainebleau, c'est pas à côté quand même.
Voilà, alors il faut savoir que pour l'équipe Turum, on a une belle bande de joyeux de riz, mais de fêlés, qui parcourent les chemins de l'Île-de-France toute l'année. Et quand on a un projet, on le met en forme en allant énormément sur le terrain, en rencontrant les gens aussi, et puis en exerçant notre acuité visuelle pour trouver des bons points de balisage intéressants. Et des parcours intéressants pour les coureurs. Donc en général, on a des chemins qui sont des chemins attrayants. On ne fait pas exprès de faire passer les gens dans l'eau, mais quand il y a des rivières sur le parcours, on se gêne pas pour les traverser. Donc ça fait quelques petites aventures. Le principe du Red 28 en général, c'est de donner un roadbook et une carte à des concurrents qui doivent passer obligatoirement par des points de contrôle.
Une heure avant, hein.
Ah, on ne donne pas une heure avant, on le donne à l'heure pile des
points. Ah ouais, même pas, donc vous voyez... Voilà.
Et chacun doit faire sa route à travers un roadbook.
Ouais.
Et il y a à trouver des balises. Alors des balises faciles à trouver, qu'on appelle les balises vertes. Elles sont sur le chemin entre deux points de contrôle. Il suffit d'y passer, mais si on n'y passe pas, il y a des pénalités en temps. Mmh. Et puis il y a des balises bleues, plus compliquées à trouver. Le jeu est là aussi. Donc les équipes qui ont un orienteur ou qui se sentent bien dans leur progression vont chercher des balises dites bleues qui donnent des bonus, donc des diminutions de temps. Mmh. Bonus, malus, et à l'arrivée, on fait des comptes. Mmh. Il y a également une chose qui a fait notre réputation depuis un certain nombre d'années, ce sont des spéciales. Donc il y a des endroits où on fait des groupes de balises bleues, ce sont des endroits intéressants, des forêts, des endroits où il y a des difficultés de progression, et ces spéciales sont définies par un jeu de traçage original qu'on invente tous les ans. Alors, je répète qu'on a un service recherche et développement dans l'association et on s'amuse à inventer des jeux de traçage tous les ans qui sont basés sur la cartographie, sur l'imagerie par satellite, etc. Et on joue beaucoup, beaucoup avec le terrain. Cette année, le slogan pour nos spéciales seront d'être historique, géologique et mathématique.
Ouf.
Oui, alors on avait présenté cela au forum des associations
de Bure-sur-Yvette. Ça mène à tout.
Au mois de septembre, on avait présenté cela à Cédric Villani, qui est un fameux mathématicien.
Oui.
Ça l'avait bien amusé, nos histoires de mathématiques, pour trouver les balises de nos spéciales. Ça, c'est le principe de Red 28 en général. Donc, l'Ultra Red 28, grande course, longue, 24 heures, pour des gens qui sont chevronnés dans l'Ultra. Les autres courses...
Ouais, c'est le Red 28 qui part de la Fertalès, ça c'est une nouveauté quand même. Hein.
Voilà, aussi, c'est une nouvelle ville de départ. Mais on aime bien, faire des contrats avec des nouvelles villes, parce que on établit des contacts avec des gens qui aiment la course à pied, des gens qui aiment nos aventures, des gens qui nous soutiennent aussi. Alors, c'était le cas aussi du côté de Chartres. On a toujours été aidés et soutenus. On y retournera, évidemment. La Red 28 ne peut pas s'en passer. Mais on dit souvent que depuis que le Paris-Dakar se passe au Chili, en Argentine, nous, on n'est pas gênés pour faire le Red 28 dans d'autres régions.
Ouais. Donc, la Ferté-Alais et puis Dourdan.
Bon, là, je vais vous résumer. 45 km. On va partir de la Ferté-Alais pour le Red 28 classique, c'est-à-dire... Mmh. Le Red 28 à 5 mixte.
C'est la plus ancienne épreuve, hein, il faut le dire à nos, à nos amis qui sont là. Ça a été le début de la création, hein,
le
Red 28, et il y a eu des tas d'épreuves qui sont venues s'articuler autour après.
Voilà, alors le Red 28, le même jour à la Ferté-Alais, il y aura donc à 20h, le samedi 19 janvier, le départ également d'une course identique, mais à 3, qui s'appelle l'équipe au trail.
D'accord.
Voilà. L'équipe au trail 28, qui est une course à 3, le même parcours, etc., que le Red 28. Il y aura également une autre course qui s'appelle le semi-Red 28, qui existe depuis une dizaine d'années, qui fait à peu près la moitié de la distance, qui fait 45 km, qui va partir de Dourdan.
Oui, là on connaît bien, on connaît mieux là.
Dourdan, hein, on connaît bien, oui, parce qu'il se trouve que Dourdan, c'est une ville dans laquelle j'ai passé ma jeunesse. C'est une ville également avec laquelle on a établi des contacts forts avec les élus et avec les gens qui s'intéressent à la course à pied. Il y a là-bas des coureurs. Quand je dis qu'on a établi des liens forts, c'est-à-dire qu'on a des relations toute l'année sur nos engagements vis-à-vis des courses. Il y a des coureurs de Dourdan qui viennent avec nous et ils nous aident vraiment pour faire un départ. On va faire un départ original, sauf que, attention, le départ de Dourdan se fera à 4h30 le matin du dimanche 20 janvier.
Oui, d'accord.
Alors, attention au folklore.
Oui,
attention.
Il partira du gymnase, non
On va partir du même gymnase qui est à... Alors, on a appelé ça Dourdan-la-Forêt, parce que c'est la gare de Dourdan-la-Forêt.
Il y a le train,
part de là. Là aussi, les coureurs qui vont partir de Dourdan sont au bout de 50 mètres dans la forêt.
Bah, le train est juste à côté, le gymnase, ils sont juste à côté, donc ça va.
Mais là, on ne parle pas du train, de partir à pied. Il va y avoir, évidemment, tout le monde s'en doute... Une très, très, très jolie progression dans la forêt de Dourdan-Saint-Arnoult, qui est une forêt maintenant bien connue. On y est passé plusieurs fois, mais on peut y passer 1000 fois. On passera jamais aux mêmes endroits. Et les coureurs continueront de chercher les balises, même ceux qui sont déjà passés là. Et puis, on a le fameux Bure 28, qui a été créé en 2013 également, qui permet aux gens de faire 28 kilomètres. C'est une grande boucle qui va partir du campus de l'université. Une boucle originale. Dans la région parisienne, en partie sur les pistes de la station de trail aussi. Et puis, on a créé cette année un 12 km qu'on appelle le Mini Red 28, qui va se dérouler suivant les mêmes règles que le Red 28, évidemment moins de kilomètres, 12 km, mais il y a également des balises à trouver et des spéciales. Dans le Red 28, alors dans l'Ultra, il n'y a pas de spécial, mais dans le Red 28 et dans l'équipe au trail, il y a 8 spéciales. Sur le semi-Red 28, il y en aura 5. Et puis sur les autres courses plus courtes, sur le 28 et le 12, il n'y aura que 3 spéciales. Mais ce sont des choses originales. Et les gens qui s'engageront dans le 12 km, ce sont des gens qui sont donc des coureurs à pied moins accoutumés aux ultras, moins accoutumés aux longues distances. Ils vont découvrir le Red 28 en petite dimension, mais toujours aussi difficile.
Comment vous allez faire, Patrick, pour vous dédoubler à toutes les équipes de bénévoles qui vous gèrent pour, et qui vous aident pour l'organisation?
Alors nous, on est comme l'air du temps.
Oui.
C'est-à-dire que aujourd'hui, on demande dans les sociétés il y a de moins en moins d'employés, on essaie de diminuer le personnel pour être plus économique, il faut rester productif et efficace, etc. Donc ce sont les gens en place qui deviennent de plus en plus performants. Donc nos bénévoles, je pense que tout le monde connaît la même expérience, sont des anciens. On est, je pense, avec des amis qui sont de plus en plus performants et on peut vraiment leur demander de tenir des postes. Alors on peut pas demander des choses impossibles. On a besoin de toute une armée de bénévoles, nous aussi, parce que c'est compliqué. Il y a des postes qui durent plusieurs heures, 5 heures ou 6 heures dans la nature. Donc il faut des gens dont on est sûr et on a une belle équipe de bénévoles. Et je choisis cette antenne justement pour saluer tous les bénévoles, les nôtres et ceux de toutes les courses qui se sacrifient dans le mauvais temps, parce que là maintenant on est dans l'hiver, et qui se donnent beaucoup de mal. Moi j'ai la chance d'avoir un staff qui est fidèle, qui s'intéresse vraiment à ça. On est dans l'organisation, le jour de la course on est 100 à 120 bénévoles, beaucoup de Buressois évidemment, mais pas que. On est un comité d'organisation d'une quinzaine de personnes, mais à l'année, on est 8 ou 10 à travailler sur le Red 28 tout le temps. Et cette équipe-là, très proche, on se voit tout le temps, on travaille beaucoup sur la Red 28, ils sacrifient beaucoup d'heures pour travailler dessus. Et si j'avais pas ce staff de 6 ou 7 fidèles qui travaillent à l'année, on ne pourrait jamais faire ce Red 28. Ce sont des gens sur lesquels je compte beaucoup, ils sont fidèles, et puis en plus... Quel talent!
Ouais. Mais enfin, ceux qui vont être à Fontainebleau pour le 110 km, ils pourront pas être à Bure ou bien à Dourdan ou même à La Ferté-Alais.
Eh ben, crois pas ça.
Si, ils vont le faire, chapeau. Hein.
Parce que.
Chapeau!
Il y a des équipes qui s'occupent du départ. Moi, je serai sur tous les points avec quelques-uns parce que il faut qu'il y ait un encadrement qui maîtrise bien tous les événements. Et il y a des contrôleurs qui seront entre 15h et 16h. Dans la forêt de Fontainebleau, mais on les retrouvera dans la nuit entre minuit et 3h du matin.
Effectivement.
Ouais. Alors certains bénévoles remplissent une feuille d'engagement, nous disent les horaires auxquels ils sont libres, mais il y en a qui sacrifient leur nuit. On est beaucoup à passer une nuit blanche. C'est quand même un peu la fête.
Hein. Oui, bah, bien sûr, on l'a vu, hein, puisque on vous a accompagné dans deux éditions sur la nuit, hein, qui est quand même, c'est quand même particulier. Hein,
j'aime bien quand tu parles de ça, parce qu'il y a quelques années,
oui, ça reste de bons souvenirs.
Radio Vieille Église avait fait des directs pendant toute la nuit du Red 28. C'est un très très grand souvenir. On espérait le refaire.
Peut-être un jour. Si on a l'équipe pour accompagner tout ça durant la nuit.
Il y avait une bande de jeunes qui animaient la station de radio la nuit. Ça, vraiment, ils avaient très bien travaillé et ça reste un grand souvenir pour nous. Alors ça, je dis, c'est la fête. C'est difficile, mais les contacts avec les coureurs, puisque beaucoup de coureurs sont des habitués, connaissent aussi les bénévoles. Il y a des coureurs, j'aime bien citer ça, qui se baladent dans leur sac à dos avec des bonbons et des chocolats, puisque c'est l'époque, et qui offrent aux bénévoles des points de contrôle des chocolats. Voilà. Donc on essaie en échange d'être gentil avec eux, parce que c'est difficile, surtout sur la fin. On a passé toute une nuit à faire cette course, le reste de la journée, toute la matinée, etc., qui n'est pas simple, avec les spéciales et les balises à trouver, c'est difficile. Ce sont des courses sur lesquelles il y a une stratégie de progression, et on demande aux équipes, au départ, de tout de suite préparer leur course, et de faire attention tout le long du parcours à respecter des barrières horaires, parce que ceux qui, malheureusement, ne vont pas assez vite ou se blessent, sont rapatriés en autocar, jusqu'au gymnase.
Et puis c'est une course d'équipe, donc c'est une course où les caractères se dévoilent. On parlait de cette fameuse nuit. À un moment, il fallait avoir une femme obligatoirement dans l'équipe de 5.
Alors dans le Red 28, c'est resté une formule avec des équipes mixtes. Alors je signale que, puisqu'on a parlé de notre ami Patrick Bonneau tout à l'heure, je pense que tu lui feras une bonne publicité pour le challenge sur route du 6 janvier, puisque nous on sera dedans, on l'aide beaucoup. Hier il a fait une réunion de ses bénévoles, évidemment dans un endroit prestigieux à côté de Cernay-la-Ville. Encore un bon moment, parce que lui il sait recevoir ses amis aussi. Il a fait une équipe il a fait une équipe avec 4 femmes. Et voilà, c'est une équipe originale. Tous les ans, il vient dans le Red 28, il en a aligné peut-être une quinzaine depuis l'an 2000, et il vient chaque année avec des amis différents. Cette année, il vient avec 4 femmes, donc ce sera une belle épreuve. Donc le Red 28 est resté avec la formule équipe mixte à 5, et toutes les autres sont ce qu'on appelle à 3 open.
Ça vous plaît pas d'y aller là? Parce que je crois que les inscriptions sont pas encore closes. Patrick, si c'est fini.
C'est pas clos encore.
C'est pas clos, il y a une date limite?
Il y a une date limite, c'est quelques jours avant la course.
D'accord, ok.
En tout cas, en l'entendant, c'est alléchant.
Oui, alors, Jean-Christophe, là, et puis Aboudou, là, il faut y aller, là. Troisième week-end du mois de janvier, 19 et 20, et 20 janvier.
C'est vrai que c'est séduisant. Moi, je connais bien aussi les forêts autour de Dourdan. C'est vrai que c'est très sympa. C'est vrai, sympa. Maintenant, c'est vrai que pour nous, c'est une autre approche de
ce course. Oui, c'est pour ça.
Mais le côté convivial, on n'en doute pas une seconde. C'est une course, effectivement, qui doit être.
La nuit, ça ressoude la difficulté et tout ça.
À l'arrivée, ça pleure beaucoup parce que c'est une épreuve pour les équipes. Et quand ils sont tellement contents d'avoir fait cela, ce sont souvent des gens qui se connaissent déjà. Il y a des équipes de société, des équipes de clubs, des amis qui courent ensemble, et c'est difficile. Et même ceux qui finissent en tête ont passé des bons moments. Alors nous, on fait tout ce qu'il faut pour qu'à l'arrivée, ils puissent se récupérer. Et on offre un repas à tous les coureurs. Les bénévoles préparent un repas quand même pour environ 500 personnes. Ça fait du bruit. Cette année, on veut faire une grande innovation. J'espère qu'on va y arriver. On voudrait faire des arrivées à l'intérieur du gymnase. Puisque l'arrivée sous l'arche, En hiver, des fois il fait pas très bon, il y a pas beaucoup de monde, et on veut offrir aux coureurs à l'arrivée quand même une espèce de folklore. Il y aura, j'espère qu'on aura des crêpes bretonnes, on aura nous aussi la bière avec modération à l'arrivée aussi, et puis tout un tas de petites choses qui font faire plaisir aux coureurs pour l'arrivée.
Oui, c'est typiquement le genre de course qu'on pourrait faire dans les associations de course à pied. De temps en temps, les associations elles font ce qu'on appelle des courses club, où elles emmènent tous leurs clubs pour des moments festifs, et c'est typiquement ce genre de course qu'on choisit, quoi. Donc c'est bien dans notre périmètre.
Oui, oui. Il y a une association à Bure-sur-Uvette qui s'appelle le jogging du dimanche matin, avec laquelle on partage beaucoup de bénévoles aussi, et ce jogging du dimanche matin fait justement des manifestations non officielles avec d'autres clubs de la région, notamment avec le CIVC, avec également le GAC de Gilles-sur-Yvette, nous-mêmes, ce sont des bons moments entre clubs aussi, entre associations. Faire une équipe, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai une formule, je dis souvent, être au départ du Raid 28 avec son équipe, c'est déjà une belle victoire, et c'est ce qui fait que on n'a pas beaucoup d'équipes dans le Raid 28, et on laisse cette formule-là par équipe parce que il faut que les équipes soient dispersées dans la forêt pour ne pas se suivre au moment des recherches de balises.
Alors je sais qu'on vous maudit souvent, mais on revient, hein. Et puis les classements vont être faciles à faire parce que vous pouvez pas, peut-être pas faire les classements tout de suite, Patrick, hein. Avec les balises et tout, il faut les...
C'est une bonne question. Je te remercie de l'avoir posée.
On est là pour
alors
ça.
Autrefois, les coureurs qui arrivaient vers 14 heures ou avant la limite, attendaient les derniers et attendaient qu'on ait fini les classements. Donc ils restaient là à table, évidemment. Ça les occupe un peu. Les douches aussi les occupent. Mais, il y avait un temps assez important. Depuis quelques années, on fait un effort financier pour louer des doigts électroniques pour faire les contrôles des balises avec des doigts électroniques qu'on loue à des associations, à des clubs. Et ça permet d'avoir le résultat très vite après avoir bouclé l'arrivée. L'arrivée est très spéciale chez nous, puisque tout le monde, à part la course de 12 km qui part à 9h avec le Raid 28 et qui doit arriver avant midi, toutes les autres courses arrivent à 15h. Et à partir de 15h, de 15h à 15h30, le chronomètre tourne trois fois plus vite. Donc, il y a une pénalité de 3 minutes par minute.
Ah oui.
Et à 15h30, là, on est hors délai et on est éliminé. Donc, les équipes doivent avoir une stratégie de progression toute la journée pour arriver au moins avant 15h30. Et à partir de 15h30, on a déjà récupéré les doigts, les cartons, etc. Et on espère pouvoir donner le podium à 15h30, à 16h, 16h15.
Ah, ouais. Quand même. Ah oui, donc c'est bien.
Alors, il y a plusieurs raisons. Ouais. On voudrait éviter de faire attendre des coureurs trop longtemps. Deuxièmement, il y a des coureurs qui viennent de province. Donc, on voudrait leur permettre de pouvoir rentrer pas trop tard. Ceux qui prennent le train aussi, etc. Donc, on essaie de boucler la course le plus vite possible. Alors, c'est un challenge aussi pour nous. Parce qu'il faut pas qu'il y ait d'anicroche, faut pas qu'il y ait d'erreurs d'informatique, faut pas qu'il y ait de contestations sur les points de balle, etc. Bon, l'arrivée est très stressante pour les coureurs, mais elle est très stressante aussi pour les bénévoles.
Oui, bien sûr. Et tout ça, on l'étudie quand on fait une organisation d'épreuve, hein, le train, les transports, tout ça, à proximité, ça rentre fatalement en ligne de compte.
Le train,
comme on en parlait pour Dourdan.
On est tout près du RER.
Oui,
bah oui, il y a quelques années, on avait fait un départ original pour le Bure 28. On avait annoncé deux, trois minutes avant l'heure de départ que le départ n'était pas là, mais qu'il était à la gare de Bure et qu'il fallait aller jusqu'à Saint-Rémy pour prendre le vrai départ.
Ouais, c'est bien.
Donc
c'est
tout
bien.
Le monde est parti. Alors ça, c'était un moyen de vider la salle efficace. Je sais pas, on fera peut-être ça un jour.
Troisième week-end du mois de janvier, c'était la tradition, on retrouve sa date initiale.
Oui, l'année dernière, on était passé au 28 janvier, parce qu'on avait trouvé que Raid 28, un 28 janvier,
c'était
rigolo. On aime bien les petites farces de ce genre.
Allez, la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale, et puis ensuite, on va parler un peu de vos projets aussi, hors corrida. Allez, on y va.
Vendre, acheter un bien sur Offargis, Le Perret ou Vieille Église, appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture et caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
DMP Doc des Matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et storiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des Matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des Matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
RVE,
vivez votre région.
RVE.
Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Et il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Et je crie vive la révolution, je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste.
Ah, effectivement, cette émission, vous la retrouverez en podcast, hein, naturellement, comme toutes celles de 2018. Donc, Patrick, on va rappeler les dates, 19 et 20 janvier de cette 26e édition, la 32e, ça sera dans quelques années. Voilà, donc tout est fin prêt pour vous.
C'est pas encore tout à fait prêt, parce qu'il faut mettre au point les derniers petits dispositifs.
Il y a que la météo qui peut chambouler les choses.
Alors, la météo, ça fait partie des impondérables, ça fait partie du jeu.
Voilà. On se rappelle 2013. Hein.
Ouais, alors, on fait des prévisions et on annonce aux coureurs dans la semaine qui précède les prévisions météo les plus précises possibles. Là, dans les prévisions météo aujourd'hui, on sait qu'on va avoir du mauvais temps sur ce week-end du 19 et 20 janvier.
D'accord.
Bon, alors, nous, on dit un temps devrait être 28.
Oui, non, mais là, aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui. Temps, hein. Oui. Non, mais il y a eu de la pluie quand même hier. Hein, donc, enfin, ça va être du beau temps pour les, pour les riders, comme on dit.
La pluie, c'est l'allié du coureur à pied.
Ouais, hein. D'accord. Très bien. Et puis, donc, la semaine prochaine, pour vous, la corrida.
Oui, donc.
20h30 au départ.
20h30 au départ, place de la mairie à Rambouillet. On attend 700 coureurs, on attend aussi du public.
Il y en aura.
Oui, je pense aussi qu'il y en aura.
Une semaine avant Noël, donc voilà.
Une semaine avant Noël. Ouais. Oui. Et puis, comme disait tout à l'heure Patrick, moi je voulais remercier aussi tous les bénévoles, parce que sans bénévoles, on n'arrive pas à faire une course. Comme on disait, une course, ça se prépare, c'est un travail de longue haleine sur 9 mois, 1 an. Et puis les sponsors qu'on a, hein, parce que aujourd'hui, grâce à tout ce monde, ce cycle, on arrive à créer une course. Et j'espère qu'elle sera très, très sympathique, mais j'en doute pas.
Hein. Et puis on donnera le résultat la semaine prochaine. On y sera et on vous donnera le résultat. Donc dimanche prochain, dans notre émission, on aura Patrick Bonneau donc, comme invité. Et puis, naturellement, c'est pas terminé. Vous organisez aussi la forestière. Et puis on peut venir vous rejoindre parce qu'il y a d'autres activités autres que le fond.
Oui.
Oui, tout à fait. Bon, on est un club en fait.
Il y a de la piste. Hein.
On fait de l'athlétisme en fait. Mm-hmm. C'est assez large. Ça va du sprint jusqu'aux courses de haies. On a des coureurs de steeple. On a un peu de lancer. Mm-hmm. On a aussi des trailers chez nous. Mm-hmm. Non, c'est vraiment large. Hein. Et moi, je vous invite à venir parce que c'est vrai que les entraînements sont.
Ils viennent un soir à la un mardi soir sur la piste du stade du Vieux Moulin.
On est sur la piste nous le mardi et le vendredi soir et on est en nature le dimanche. Après, il y a possibilité de faire d'autres séances au point de vue individuel dans la semaine, mais nous, on est sur la piste du Vieux Moulin le mardi. Le vendredi.
Voilà, c'est un club où tout le monde réussit à trouver son chemin. On accueille aussi bien des débutants que des gens qui courent couramment. Quoi,
hein. Et puis la forestière de Saint-Léger, c'est vous qui l'avez reprise. Hein.
Alors la forestière de Saint-Léger, c'est la section extrême de chez nous qui l'a reprise, qui l'organise, ainsi que la Rambouillet Sport. On a, en fin de compte, dans notre association Rambouillet Sport, on a trois courses. On organise trois courses à trois moments différents. On essaye de promouvoir la course à pied parce que c'est très populaire et puis c'est notre façon d'être quoi.
C'est vrai qu'on parle souvent de course à pied chez nous dans Tribune Sport sur notre radio, mais c'est vrai que c'est un des sports rois, un des sports majeurs de la région quand même. Hein. Il se passe beaucoup de choses. Hein.
Oui, il y a beaucoup d'événements.
Énorme, hein.
Il y a beaucoup d'événements dans la région et puis on retrouve toujours les mêmes, comme on disait, on retrouve les mêmes organisateurs, les mêmes coureurs.
Oui,
c'est une petite
milieu
famille,
très sympa. Hein. On rigole bien.
C'est ça. Hein. C'est une grande famille.
Patrick, vous partagez cette opinion. Hein.
Grande famille de la course à pied. On organise des soirées aussi avec les bénévoles et avec notre public. Notamment, on va organiser le 22 mars 2019 une soirée qui s'appelle la Soirée des Panards. On offre un panard qui est un trophée. Hein,
C'est les Césars du Raid 28.
C'est les Césars et les Oscars du Raid 28.
Voilà, c'est ça. Très bien, ben messieurs, merci. En tout cas, Patrick, nous, on se verra en direct dans notre émission. Vous interviendrez le 20 janvier pour nous donner un petit peu le point.
Bien sûr.
De l'épreuve, comme d'habitude. Et puis nous, on se voit samedi soir.
Samedi soir, merci.
Et puis on vous donnera le résultat, en tout cas, donc dans l'émission de dimanche prochain, où on aura Patrick Bonneau comme invité. Puis on reviendra aussi sur la récente cérémonie des Fair Play avant notre grande émission de rétro dans 15 jours, entre 10h et midi, on reviendra sur cette énorme et exceptionnelle année sportive 2018. Merci à Jean-Pierre d'avoir été donc aux manettes ce matin. On retrouvera Bastien la semaine prochaine. Restez-nous fidèles, hein. Puis n'oubliez pas, vous pouvez encore donner au 36-37 pour le Téléthon. Ça n'était que des promesses de dons, on connaîtra le chiffre définitif au mois de mars. Bon dimanche à toutes et à tous. À très bientôt, salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Je pense à tous les deux, là. Oui.
Bonne matinée. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour. Mouvement paradoxal. Si l'on en croit les chiffres officiels, il a fallu beaucoup plus de forces de l'ordre hier dans les rues des grandes villes de France pour encadrer des manifestants de moins en moins nombreux. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dénombré 125 000 gilets jaunes, soit moins que la semaine dernière, avec des effectifs policiers qui étaient portés à 89 000. Autre chiffre exceptionnel, 1385 personnes ont été interpellées et 975 ont été placées en garde à vue. Le dialogue a commencé, estimé le Premier ministre Édouard Philippe, qui veut désormais retisser l'unité nationale. Mais les violences n'ont pas été évitées et à Paris comme en province, on retrouve ce matin les stigmates de la casse, vitrines brisées sous les lumières de Noël.